7h18, les enjeux internationaux avec aujourd'hui Éric Laurent. Bonjour Éric.
Et bonjour Marc.
Et vous nous parlez de l'Iran ce matin.
Oui, avec Philippe Moreau de Farge qui est chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Philippe Moreau de Farge, le groupe des 5 membres permanents du Conseil de sécurité devrait donc se réunir pour discuter d'un projet de sanctions. Mais en réalité, je dirais que la route juridique est extrêmement compliquée.
Tout à fait. Si vous voulez, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a un accord, semble-t-il, entre les 5 membres permanents. Il faut être précis, c'est un accord sur certaines sanctions.
Bien sûr.
Peut-être pas dire un accord général sur la politique qui doit être menée à l'égard d'Iran. Une fois que les 5 membres permanents se seront mis d'accord sur une liste de sanctions, ils devront la proposer au Conseil de sécurité dans son ensemble. Il est très important de souligner que ces sanctions n'engageront les membres des Nations Unies qu'à deux conditions. Que si 9 membres sur 15 votent ces sanctions, donc les 5 membres permanents ne peuvent rien par eux-mêmes, donc que les 9 membres sur 15, donc 5 permanents, 4 non permanents, votent ces sanctions, et puis que bien évidemment aucun des membres permanents ne mette son veto. Donc si vous voulez, le pouvoir de veto est présenté souvent comme un pouvoir de décider. C'est pas du tout un pouvoir de décider, c'est un pouvoir d'empêcher.
Est-ce qu'il y a des exemples, je veux dire, dans le passé récent, justement de décisions qui devaient être prises par le Conseil de sécurité et qui ont été bloquées, ne serait-ce que par un des membres?
Non, si vous voulez, il y a d'innombrables exemples de veto qui ont bloqué des résolutions tout au long.
On le voit très bien, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, notamment, il y a un certain nombre de résolutions votées contre Israël et qui sont en général bloquées par un veto américain.
Oui, si vous voulez, alors, ce qui concerne le conflit israélo-arabe, aucune résolution n'est passée devant le Conseil de sécurité qui véritablement condamnait Israël, parce qu'il y a automatiquement un veto américain. C'est clair, ça c'est clair. De même, à une époque, pour prendre un exemple, il était exclu de parler du Vietnam au Conseil de sécurité ou de parler de l'Afghanistan au Conseil de sécurité parce qu'il y aurait eu un veto soit américain, soit soviétique. Ça, c'est clair. Non, l'exemple, si vous voulez, il y a un exemple assez tragicomique parce que ça n'a pas bloqué. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies a créé en 1994 le tribunal pénal pour le Rwanda, 14 membres sur 15 ont voté ce tribunal. Donc le tribunal a été créé. Un membre sur 15 a voté contre, donc un membre non permanent, évidemment, a voté contre, c'était le Rwanda lui-même. Et le Rwanda, à l'époque, était membre non permanent du Conseil de sécurité, et le Rwanda considérait que les affaires de massacre de 1994, le génocide de 1994, ne devaient pas être traitées par l'ONU, par un tribunal onusien, mais devaient être traitées par un tribunal rwandais.
Mais cette décision, Philippe Moreau de Farge, d'adopter des sanctions, d'élaborer des sanctions contre l'Iran, ressemble un peu à un jeu d'échecs entre les deux parties, la partie occidentale et la partie iranienne. Je veux dire par là qu'au moment même où les États-Unis réunissaient ou tentaient de réunir autour d'un consensus les membres permanents du Conseil de sécurité, on voyait très bien que les Iraniens menaient une diplomatie parallèle et des négociations parallèles avec un certain nombre de pays émergents, membres non permanents d'ailleurs du Conseil de sécurité, tels le Brésil et la Turquie qui d'ailleurs pourraient peser.
C'est très intéressant parce que le Sud ou les pays émergents sont souvent présentés comme un bloc, ce qui ne sont pas du tout. Or, on voit bien que dans l'affaire iranienne, il y a un clivage entre, je dirais, les pays émergents membres du Conseil de sécurité, disons la Chine et la Russie, qui, eux, je dirais, se sentent considérés comme des grandes puissances ayant intérêt à défendre l'ordre nucléaire établi et donc, malgré tout, à condamner le perturbateur, l'Iran. Et de l'autre côté, on voit se nouer une alliance entre l'Iran, le Brésil et la Turquie, c'est une alliance de pays émergents, disons, très frustrés de l'ordre international, n'étant pas du tout étant beaucoup moins engagés par l'ordre international, puisque parmi ces États, il n'y a pas de membre permanent du Conseil de sécurité, et voulant exister. Donc c'est clair que dans l'affaire iranienne en cours, il y a un bras de fer, je dirais, entre les pays du Sud établis, les pays émergents établis, et puis les pays émergents non établis.
Alors, nous sommes bien d'accord, l'adoption de sanctions par les membres permanents du Conseil de sécurité n'engagerait que, je veux dire, c'est à mesure où les membres non permanents, c'est-à-dire effectivement, donc n'adhéraient pas ou ne suivaient pas dans leur majorité.
Si les 5 membres permanents sont d'accord seuls sur des sanctions, ce ne sont même pas des sanctions onusiennes. Ce sont des sanctions des États, ces 5 États qui adoptent des sanctions. Ils ont le droit de le faire, ça ne concerne qu'eux. Pour qu'à nouveau les sanctions au sens onusien du terme existent, il faut qu'elles soient adoptées selon la procédure que j'ai déjà décrite, 9 membres sur 15 votant ces sanctions et aucun veto de membres permanents. Donc c'est clair que il faut rallier des membres non permanents. D'ailleurs, cette affaire n'est pas nouvelle. Je vous rappelle qu'en 2003, au moment de l'Irak, lorsqu'il y a eu un bras de fer assez dur entre les États-Unis et la France, à la veille où les États-Unis voulaient obtenir une résolution les autorisant à intervenir militairement en Irak et la France voulant bloquer cette résolution. Il y a eu toute une campagne, aussi bien du secrétaire d'État américain que du ministre des Affaires étrangères français à l'époque, Dominique Villepin, pour rallier les membres non permanents. Parce qu'on savait très bien que ce qu'elle est décisif, c'était pas, bien sûr, la France voulait mettre son veto, elle l'avait dit qu'elle mettait son veto. Mais on voyait bien qu'il était très important pour la France de montrer que derrière elle, derrière sa position à elle, il y avait un certain nombre d'États de la communauté internationale, c'est-à-dire les 10 membres non permanents. Il faut rappeler que les 10 membres non permanents représentent quelque peu la communauté internationale. Il faut comprendre quel est le système. Les 5 membres permanents, ce sont les vainqueurs de 1945. Ils sont là depuis 1945, désignés par les vainqueurs. Donc il y a une sorte de poids historique qui est là, qui, et d'ailleurs avec le temps, leur légitimité diminue. Et puis il y a 10 membres non permanents. Et ces 10 membres non permanents ont une légitimité. Ils sont élus par l'Assemblée générale des Nations Unies.
Pour deux ans ? Pour
deux ans. Sur les bases géographiques. Donc ils peuvent dire, nous sommes les vrais représentants de la communauté internationale. Nous ne sommes pas les héritiers de la victoire de 45, nous sommes les héritiers du vote de la société des nations telle qu'elle existe aujourd'hui.
Mais on peut rappeler, d'ailleurs, vous évoquez 2003, mais on peut rappeler effectivement la première guerre du Golfe, oui, où justement l'administration Bush avait utilisé les Nations Unies comme instrument, je dirais, de création pour créer cette vaste coalition contre Saddam Hussein et l'Irak.
Je vous laisse responsable de cette opinion. Pour moi, si vous voulez, aujourd'hui, une opération militaire n'est légitime que si elle a un mandat onusien. Donc il était très important pour Bush père, le papa, pas le fils, hein, le papa,
oui,
qui était un homme très légaliste, qui était très attaché au droit international, de dire « j'agis dans le cadre du droit international ». Ce qui voulait dire que je ne ferai la guerre contre l'Irak au Koweït qu'à la condition d'avoir un mandat onusien. Et c'est vrai que les États-Unis de George Bush père avaient veillé à bâtir une coalition. C'est-à-dire, à l'époque, je vous rappelle, les 5 membres permanents avaient voté l'autorisation de faire la guerre. Et puis, sur les 10 membres non permanents, il y en a 9 qui ont voté pour ce mandat. Il y en a un seul à nouveau qui s'était opposé, c'était le Yémen à l'époque, qui était membre non permanent du Conseil de sécurité, qui avait dit non et qui avait soutenu l'Irak de Saddam Hussein.
Mais d'un mot, Philippe Rodefarge, quand on regarde le rapport de force au sein du Conseil de sécurité aujourd'hui, oui, avec justement le poids des membres non permanents, oui, quelles sont les chances de faire voter une vaste résolution, justement portant sur de vastes sanctions ?
Écoutez, c'est ouvert. Là aussi, il faut voir quelle va être la stratégie du Brésil et de la Turquie dans cette affaire. C'est relativement ouvert. À nouveau, je vous rappelle, la Turquie et le Brésil, c'est deux États. Il y a 15 États. Bon, c'est clair qu'il va y avoir... Ce qui est très intéressant, c'est que depuis l'Irak en 2003, on voit bien que le jeu du Conseil de sécurité s'est ouvert. Ce n'est plus un jeu seulement entre les mêmes permanents. C'est vraiment un jeu à 15. Donc, il y a une incertitude. On verra. Mais disons que pour les 5 membres permanents, ce n'est pas gagné d'avance. Il est clair que les 5 membres permanents vont faire une pression terrible pour obtenir le vote. C'est une satisfaction d'abord d'amour propre. C'est clair que si la sanction est rejetée par le Conseil de sécurité, si les 5 membres permanents n'arrivent pas à obtenir cette résolution, ce sera très dur pour eux. Ça veut dire que, définitivement, le système des membres permanents n'est plus légitime.
Philippe Bourdefarge, merci.
Derrière l'affaire iranienne, il y a un bras de fer plus global.
Philippe Bourdefarge, merci.